Les sandales du Christ. Épigraphe, ayant pour chaussures les dispositions que donne l'Évangile de paix. Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 15. Pour l'amour de Dieu, femme, ne pourrais-tu me dire où se trouve le prophète qui, ces jours derniers, à Béthanie, tira un mort de son tombeau? J'ai entendu parler de lui à Anathoth, où j'habite, et malade, un poutant comme tu me vois, je me suis traîné jusqu'ici dans l'espoir de le rencontrer, afin d'être guéri par lui. » L'homme qui parlait ainsi venait d'entrer dans Jérusalem par la porte du nord. À demi paralysé, il marchait péniblement, appuyé sur deux bâtons. Il était vêtu pauvrement, et ses pieds nus étaient couverts de poussière. Son visage maigre et hâve indiquait la souffrance et la faim. La femme à qui ce pauvre homme s'était adressé paraissait jeune et alerte. Elle revenait de la fontaine et portait sur son épaule une amphore pleine d'eau. Son bras gracieusement reployé pour soutenir le vase était orné d'élégants bracelets. « Hélas, répondit-elle, j'ignore de qui tu veux parler. Ne sais-tu pas le nom de ce prophète? Il n'y a point à Jérusalem un si grand nombre d'hommes qui ressuscitent les morts. C'est la première fois que j'entends cette histoire invraisemblable. » « Il s'appelle Jésus. Jésus de Nazareth, » répondit le paralytique. La jeune femme partit d'un éclat de rire. « Jésus de Nazareth? Veux-tu parler de ce Galiléen qui, l'autre jour, entra dans la ville, entouré d'une troupe de jeunes polissons, chantant sur son passage et agitant des rameaux poudreux? Je l'ai vu, il était monté sur un âne, et des hommes de mauvaise mine, Galiléens comme lui, cheminaient à ses côtés. Il a même été l'occasion d'un scandale public. » Et je ne serais pas surprise qu'il fût à cette heure en prison, car on assure qu'il est allé, toujours accompagné de sa troupe, jusque dans le temple, qu'il a osé proférer des menaces contre les honnêtes commerçants et changeurs qui y sont établis, et même a renversé leurs tables, chassé leurs bœufs et mis leurs pigeons en liberté. « Il n'est pas en prison, » dit gravement un homme à turban brun qui s'était arrêté pour entendre la conversation. « Il est mort. » Nos vénérables prêtres ont jugé qu'un tel séducteur ne pouvait sans danger être toléré plus longtemps. N'allait-il pas de ville en ville prêcher la révolte, tenant des propos séditieux contre nos rabbis, nos scribes, nos pharisiens, toutes les gloires de notre nation, enfin, et s'entourant de gens sans aveu, de péagers, de femmes de mauvaise vie, soi-disant repentantes? Aussi l'a-t-on dénoncé au procurateur, Pontius Pilatus, qui l'a condamné. Avant-hier, on le crucifia avec quelques autres malfaiteurs. » L'impotent, à l'ouïe de ces paroles, restait immobile et consterné. « On m'avait donc trompé, » murmura-t-il enfin. « Cependant, ce miracle, cette résurrection... »« Lazare de Béthanie, » reprit le nouveau venu. « Oui, je sais, un pauvre air un peu simplé, qui prétend être sorti du tombeau. » Il fera bien de prendre garde à lui, car nos magistrats ont résolu de couper court à toutes ces histoires. Si ce Jésus avait pu ressusciter Lazare, voyons, se serait-il laissé mettre en croix? C'est juste, dit la jeune femme. Médecin, guéris-toi toi-même. Vois-tu, mon pauvre ami, tu n'as qu'une chose à faire, c'est de retourner chez toi et de ne plus te fier au compte qu'on te fera sur les Galiléens vagabonds qui se disent prophètes. Pourtant, ajouta-t-elle, on n'aurait pas dû le faire mourir. Il n'avait pas l'air méchant, entouré de ces petits garçons qui agitaient leurs branches d'arbres. Et, d'un pas harmonieux, elle s'éloigna, non sans avoir mis une pièce de monnaie dans la main de l'impotent. Un tisserand, occupé dans sa petite échoppe, avait entendu tous ces propos. Il avait interrompu son travail pour mieux prêter l'oreille, mais n'avait pris aucune part à la conversation. Quand la jeune femme et l'homme au turban brun se furent éloignés, le tisserand s'approcha du malade. « Frère, lui dit-il, entre chez moi, tu te reposeras, et je te parlerai de Jésus de Nazareth. » Le pauvre homme accepta sans se faire prier, et s'assit sur une natte fort propre étendue sur la terre battue qui formait le plancher de la boutique. Son hôte, prévenant, lui donna quelques coussins pour lui servir d'appui. Puis il alla chercher dans un bassin de l'eau fraîche, et se mit en devoir de laver les pieds du malheureux. « Non, mon frère, non, ne fais pas cela, » dit l'impotent. « C'est trop, en vérité. Je ne suis qu'un pauvre homme, indigne de si généreuses attentions. Ne sais-tu pas qu'Abraham, notre père, lava lui-même les pieds de 3 voyageurs ? Dit en souriant le tisserand.
Cela est vrai, répondit le paralytique.
Mais quelle différence entre ces visiteurs et moi ?
N'importe. Céphas m'a raconté que dans la nuit qui a précédé sa mort, le maître, celui que tu appelles Jésus de Nazareth, lui a lavé les pieds à lui-même.
Mais tu ne connais pas Céphas, ni Jésus. Hélas, celui-ci, tu ne le connaîtras jamais.
Et le tisserand, bien qu'il fût jeune et vigoureux, se mit à verser des larmes silencieuses qui se mêlaient à l'eau du bassin qu'il tenait à la main.
Parle-moi de lui, dit enfin le paralytique. Était-il vraiment un prophète ?
Oh oui, et plus qu'un prophète, répondit l'ouvrier avec exaltation. Nous l'appelions le fils de David.
Était-il aussi puissant qu'on le dit ?
Puissant comme Dieu.
Et bon comme Dieu.
Et pourquoi donc s'est-il laissé tuer ?
Le tisserand laissa retomber sa tête et ne répondit pas.
Écoute, dit-il enfin quand son visiteur eut achevé le repas qu'il avait placé devant lui.
Veux-tu venir avec moi ? Te voilà reposé maintenant. Nous irons à l'endroit où il est mort. Ce n'est pas loin d'ici.
Quelque chose m'y appelle sans cesse, et j'y étais déjà ce matin.
J'ai aussi visité son sépulcre, que j'ai trouvé vide, chose bien étrange.
Peut-être rencontrerons-nous quelque ami du maître qui m'expliquera ce que cela veut dire.
Viens, je t'aiderai à marcher.
Soit, dit le paralytique,
mais, homme généreux, tu ne m'as point dit encore ton nom.
Je m'appelle Marc, répondit le tisserand.
Et toi ?
Mon nom est Thaddéus.
Et les deux compagnons se mirent en route, l'un racontant à l'autre les actes du maître incomparable disparu pour jamais.
Ils arrivèrent enfin à l'endroit où le supplice avait eu lieu 2 jours auparavant. Il était environ la 3e heure. Le soleil dardait ses rayons sur la terre nue et calcinée. On ne voyait rien là que les trous dans lesquels les croix avaient été dressées. Près de l'un de ces trous, il y avait encore des traces de sang.
C'est là, dit Marc d'une voix étouffée.
Regarde, Thaddéus, ils étaient 3, mais son sang a coulé seul.
J'y étais et je n'ai vu donner qu'un seul coup de lance.
Oh, si tu avais vu la rage des prêtres et la fureur de la populace, et la douceur de son visage, sa patience, son calme inaltérable.
À la fin seulement, il a crié, un cri déchirant qui me retentit encore au fond du cœur.
Oh, pourquoi es-tu parti, maître bien-aimé ? Pourquoi t'ai-je connu s'il fallait te perdre si tôt et pour toujours ?
Ainsi parlait le jeune tisserand, et sa douleur était si poignante que le paralytique en oublia la sienne et se mit, par sympathie, à genoux avec lui sur la terre ensanglantée. Ils restèrent longtemps prosternés ainsi. Enfin, le jeune homme se redressa.
« Partons, dit-il. »
L'impotent obéit, mais avant de se relever, il étendit la main vers 2 objets informes qui avaient frappé son regard.
« Je ne suis qu'un pauvre homme, dit-il. Toute trouvaille est pour moi précieuse.
Permets que j'examine celle-ci. Ce sont des sandales.
Oh, bien usées, il est vrai, et les cordons en sont rompus.
Ces chaussures ont été portées par un homme qui marcha beaucoup.
Cela ne fait nul doute. Les pierres de tous les chemins y ont laissé leur empreinte. »
Mais elles me vaudront mieux que rien, et puisqu'il me faut retourner chez moi, du moins je n'irai pas nu-pied. »
En parlant ainsi, notre impotent chaussait les sandales qu'il avait trouvées.
Marc ne l'écoutait que d'une oreille distraite, tout à sa grande douleur.
« Miracle ! Miracle ! » cria le paralytique dès qu'il eut fait quelques pas. « Frère, est-il bien possible ? Gloire au Seigneur ! Je suis guéri !»
Il sautait, il dansait sur la route, il avait jeté ses bâtons inutiles, et on aurait cru cet homme pris de soudaine folie.
« Comment cela s'est-il fait ? » dit Marc surpris.
Puis tout à coup, se frappant le front, « Thaddéus ! Ce sont ses sandales ! Quand ils l'ont crucifié, les soldats se sont partagés ses habits,
mais ces pauvres sandales, ils les ont jetées comme n'ayant point de valeur, et c'est toi qui les as trouvées !
Adore-le, frère ! Car il n'est pas possible qu'il soit mort pour toujours, l'homme qui vient par sa vertu toute puissante d'opérer sur toi un miracle pareil. »
Ils retournèrent sur leurs pas et de nouveau se prosternèrent à l'endroit où le sang avait rougi le sol. Avec quelle reconnaissance le paralytique guérit et leva son cœur à Dieu.
comme il l'appelait ardemment, ce sauveur qui, absent, avait encore tant de puissance. Puis ils se relevèrent et se dirigèrent vers la chambre haute où les disciples étaient assemblés. À peine arrivés, ils entendirent de joyeuses paroles. « Il est ressuscité !» disaient Céphas et Jean et Marie de Magdala. Et voici que tout à coup, il apparut au milieu d'eux en disant « La paix soit avec vous !» Puis ses yeux se promenèrent sur l'assemblée et semblèrent s'arrêter sur Thaddéus qui, prosterné, éperdu de joie et de crainte, retenait son haleine. « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi de même. Allez, dit-il, allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature humaine. » « J'irai, maître, répondit tout bas l'heureux possesseur des sandales du Christ. »